Bonjour à tous, bienvenue donc dans Monde Libre en ce lundi 18 juin. Aujourd'hui, nous accueillons avec Quentin Frédéric Couchet, qui est fondateur et délégué général de l'Association pour la recherche en informatique libre. Frédéric Couchet, bonjour.
Bonjour, c'est Association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Nous avons deux
D'accord.
activités que je
Ok.
gérerai.
Autant pour moi, désolé. Et nous accueillons aussi Rémi Palanchet, qui est étudiant de notre promotion en génie informatique.
Oui, bonjour.
Voilà, alors le temps d'un morceau, d'une coupure musicale, comme d'habitude, trouvé sur un site qui propose de la musique libre. Et on se retrouve, vous vous retrouvez en tout cas avec Quentin et Maxime pour Monde Libre. Quentin, à toi.
Marche très bien mon micro aussi. Il marchait mon micro.
Bonjour, vous êtes sur Monde Libre 94.9. Donc on vient d'écouter un titre, La Vida Entera, donc de José Mesa y Los Presentes, donc un titre espagnol de l'album Que Revolver, donc un titre sous Creative Commons, donc libre, qu'on a trouvé sur jamendo.com.
Exactement. Alors, comme je vous l'ai dit pour terminer l'émission de Lucille tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui Frédéric Couchet, qui est délégué général de l'April, ainsi que Rémi Palanchet. Alors Frédéric Couchet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'April, ce que c'est, à quoi ça sert ?
Ben rapidement, en fait, l'April a deux objectifs. C'est la promotion et la défense du logiciel libre. Alors je sais que Richard Stallman, qui est la personne qui a formalisé le logiciel libre il y a quelques années, est venu intervenir la semaine dernière pour vous présenter le logiciel libre.
Oui.
Nous avons nos deux activités. Donc la première activité, la promotion, c'est en fait de sensibiliser tous les publics, donc que ce soit le grand public, mais aussi les journalistes, les entreprises, les institutionnels, aux avantages du logiciel libre, à la fois les avantages sociaux, économiques, et en termes de respect des libertés. Ça, c'est une activité qu'on a depuis le départ, donc depuis 1996, on s'est créé il y a 11 ans. Et depuis quelques années, on a une deuxième activité qui correspond en fait à l'évolution du logiciel libre, et notamment sa prise en compte par de plus en plus d'acteurs et son succès, c'est qu'en fait, il a eu des ennemis. Des gens notamment comme Microsoft, qui fait lui du logiciel propriétaire, s'est rendu compte en fait qu'il avait un nouvel concurrent qui est le logiciel libre, un concurrent un peu bizarre qu'il ne peut pas racheter, vu que le logiciel libre c'est fait par des communautés, par des développeurs, par des entreprises. C'est quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Donc la lutte contre le logiciel libre organisée par Microsoft est surtout faite de point de vue juridique et par la propagande. Et donc l'activité de l'April depuis quelques années, depuis 5-6 ans, c'est de lutter contre cette propagande et de lutter contre toutes les lois qui pourraient mettre en danger le logiciel libre. Donc que ce soit par exemple les brevets logiciels, dont je pourrais parler éventuellement, ou que ce soit les DRM, donc les outils de contrôle de l'usage numérique, qui ont fait beaucoup parler d'eux il y a quelques années à travers la loi DADVSI sur le droit d'auteur. Donc on a ces deux activités. L'April est composé à peu près de 1500 membres aujourd'hui, qui représentent une vraie sociologie du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'utilisateurs individuels, à peu près 1200, pas simplement des informaticiens, mais des gens qui au quotidien utilisent le logiciel libre simplement sur leur poste de travail sans être informaticien. On a des entreprises qui sont membres, une cinquantaine d'entreprises. Alors ça va de la grosse entreprise comme Thales par exemple, qui fait pas que du logiciel libre bien sûr, mais qui en fait, à la société de service où ils sont 3 ou 4 personnes et qui fait que du logiciel libre. Et puis on a une quarantaine d'associations, donc principalement des groupes d'utilisateurs dans les différentes régions françaises, mais également un site comme Framasoft, qui est un site de sensibilisation au libre, notamment pour les gens qui viennent de Windows. Donc cette diversité des membres de l'association montre aussi la richesse de la sociologie du logiciel libre et de l'économie du logiciel libre.
D'accord.
Donc, ouais, donc je te remercie de nous avoir présenté donc l'April. Donc on est, comme on a dit, on est en compagnie de Maxime et on a aussi un invité, Rémi Palanchet, donc qui est étudiant à l'UTC en génie informatique avec nous. Donc,
oui.
Je te laisse te présenter.
Bah, donc oui, je suis donc étudiant à l'UTC en GI4. J'aurais déjà donc une question pour Frédéric. En fait, j'aimerais comprendre, moi j'ai compris, mais j'aimerais que tu expliques aux auditeurs, en fait, pourquoi... quels sont en fait les vrais dangers qu'affrontent actuellement les logiciels libres ? Quels sont en fait les... Pourquoi il faut les protéger et contre quoi exactement ?
Pour ça, il faut déjà rappeler ce que c'est que le logiciel libre. Le logiciel libre, c'est 4 libertés fondamentales à l'ère du numérique pour les utilisateurs d'ordinateurs. La première, c'est la liberté d'utiliser l'ordinateur, le programme, comme bon vous semble. C'est-à-dire que vous ayez acheté un logiciel libre ou que vous l'ayez téléchargé légalement sur Internet, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Ça, c'est la première liberté. La deuxième liberté, c'est la liberté de faire des copies. En gros, d'aider votre voisin, c'est tout à fait légal. Vous avez un logiciel libre, vous en faites une copie que vous passez à votre voisin. La troisième liberté, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel libre. Le logiciel libre, il vient à la fois sous sa forme qui est compréhensible par l'ordinateur et sur ce qu'on appelle le code source, c'est-à-dire la forme sous laquelle l'informaticien a travaillé. Pour prendre une analogie, il suffit de penser simplement aux recettes de cuisine. Le pâtissier, le cuisinier travaille sur une recette de cuisine. Ensuite, il y a un certain processus chimique qui se met en place, qui arrive à une version, enfin au plat cuisiné. Ben, le logiciel libre, il vient avec sa recette de cuisine. Donc on peut l'étudier, ce qui en termes de sécurité est intéressante, puis aussi en termes évidemment éducatifs. Et la quatrième liberté, c'est la liberté de modifier ce logiciel libre, soit pour corriger des erreurs de programmation, soit pour ajouter une fonctionnalité. Et en fait, ces quatre libertés créent un monde de coopération dans lequel en fait des briques logiciels libres sont disponibles et chacun rajoute sa couche dont il a besoin. On peut prendre une comparaison avec la recherche scientifique, c'est exactement la même chose, c'est la publication de sources, c'est la revue par les pairs et ça a la transparence. On considère aujourd'hui, nous, que le logiciel libre, c'est doit être protégé au même niveau que la liberté d'expression dans le domaine du matériel. La liberté d'expression est protégée fondamentalement dans la société actuelle. Ben, le logiciel libre, c'est quelque part l'équivalent de la liberté d'expression dans le monde du numérique. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le protège. Et en fait, on doit le protéger contre quoi ? Ben, contre des gens en fait qui ont une vision totalement différente de celle du monde du logiciel libre, qui est celle du contrôle de l'usage. Alors ce qu'on met sous le terme DRM, brevet logiciel, informatique déloyale, etc., c'est simplement des ambitions d'un certain nombre d'acteurs, éditeurs de logiciels propriétaires et majors des médias, qui considèrent en fait qu'on doit contrôler l'usage numérique que vous faites de vos œuvres. Je vais prendre, si j'ai le temps, juste une comparaison. Si on prend l'exemple des DRM, des dispositifs de contrôle d'usage, aujourd'hui quand vous achetez un livre par exemple dans le commerce, l'auteur diffuse, décide de la façon dont il a diffusé son livre. Donc vous pouvez l'acheter dans le commerce. Mais une fois que vous l'avez acheté dans le commerce, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez le lire une fois, vous le lisez une fois. Si vous voulez le lire 10 fois, vous lisez 10 fois. De même, si vous voulez commencer par la première page, vous pouvez. Mais si vous voulez commencer par le chapitre 5, vous pouvez. Et c'est normal parce qu'on considère que c'est un respect de la vie privée, qu'on n'a pas à contrôler cet usage-là. Et en plus, ça serait strictement impossible parce que sinon, il faudrait mettre des policiers physiques dans chaque maison. Sauf qu'avec le numérique, aujourd'hui, ce genre de choses de contrôle devient possible. Parce que ces policiers physiques sont en fait ces fameux DRM, des policiers numériques, qui accompagnent l'offre que vous achetez par exemple dans le commerce, donc le livre numérique, le CD, et qui contrôlent votre usage. Et ce contrôle d'usage est une révolution dans la gestion, je dirais, à la fois du droit d'auteur, mais aussi de la gestion de la culture. On a toujours considéré que l'auteur devait contrôler la diffusion et non pas l'usage, parce que la vie privée doit être respectée. Donc c'est aussi contre ça qu'on se bat. Finalement, nous, on est dans un monde où on essaye de construire avec le numérique des outils de façon collaborative, qui sont utilisables par tous. Et en face, le même monde numérique est tenté d'être utilisé pour créer de la rareté du contrôle d'usage, principalement par les majors des médias, et les éditeurs de logiciels propriétaires.
Voilà, donc je pense que tu as tout à fait bien résumé le point que je dirais critique à l'heure actuelle. C'est un peu ces deux mondes qu'on est en train de voir se dessiner, et c'est un peu pour ça qu'on lutte, pour éviter justement de tomber dans le propriétaire et le contrôle de la pensée, puisque c'est un peu ça, quoi. C'est pas seulement interdire les utilisateurs, mais c'est contrôler la culture, et donc plus généralement, c'est nous fermer un peu l'esprit.
Oui, c'est ce que disait Richard la semaine dernière. Finalement, on en est vraiment à un tournant de la société aujourd'hui, parce qu'il faut, vraiment faire le choix entre le logiciel libre ou la privation des libertés. Bien, très bien. Je pense qu'on peut commencer par faire une petite pause musicale. Donc, on va écouter tout de suite un titre qui s'appelle « Où se cachent les larmes » d'un artiste Tom Lamèche.
Tout de suite sur Graphique 94.9, donc vous êtes sur Monde Libre, et donc vous pouvez aussi nous écouter sur internet ghstreaming.etc.fr, ghstreaming.etc.fr. Tout de suite, Où se cache les larmes sur Graphite.
étrange, vous avez l'étrange, étrange, vous avez l'étrange, comme c'est étrange, comme c'est étrange. Monde étrange, monde qui flanche, bizarre ce monde qui penche, de l'autre côté de la balance, dingue cette France en décadence, étrange cette justice à deux vitesses, où inégalité rime avec délit de faciès, étrange le pauvre con qui tape sa femme, parle encore d'amour sur son regard infâme. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange. Étrange, le raciste qui n'aime pas une couleur, par peur ou par manque de cœur. Étrange de rouler en Ferrari pendant que d'autres touchent le RMI. Étrange toutes ces grandes gueules qui se disent solidaires mais au premier coup de gueule se barrent comme des grandes folles. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange, comme c'est étrange. Étrange de posséder la bombe atomique en se proclamant défenseur des droits civiques. Étrange d'abandonner nos vieux dans les hospices en les laissant crever doucement dans leur pisse. Étrange ces politiciens en quête de pouvoir, prêt à tout pour manipuler l'histoire. Étrange, étrange, vous avez l'étrange, comme c'est étrange. Étrange de valoriser des camés qui brillent comme des stars à la télé. Étrange de voir tous ces cinglés qui courent après une pseudo-célébrité. Étrange cette foutue haine qui coule jusque dans mes veines. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange, comme c'est étrange. Étrange le raciste qui n'aime pas une couleur, par peur ou par manque de cœur. Étrange de rouler en Ferrari pendant que d'autres touchent le RMI. Étrange toutes ces grandes gueules qui se disent solidaires mais au premier coup de gueule se barrent comme des grandes folles. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange, comme c'est étrange. Étrange de posséder la bombe atomique en se proclamant défenseur des droits civiques. Étrange d'abandonner nos vieux dans les hospices en les laissant crever doucement dans leur pisse. Étrange ces politiciens en quête de pouvoir, prêts à tout pour manipuler l'histoire. Étrange, étrange, vous avez dit étrange, comme c'est étrange.
Vous êtes toujours dans Monde Libre sur Graphite 94.9. Je rappelle que vous pouvez nous écouter en streaming sur internet à l'adresse ghstreaming.utc.fr. Nous sommes toujours avec Frédéric Couchet et Rémi Palancher. Alors pour cette partie de l'émission, Frédéric, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des actions concrètes de l'April et notamment de l'initiative candidat.fr?
Bah avec plaisir. Déjà, en termes d'actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux types d'actions, c'est promotion et défense du logiciel libre. En termes de promotion, on a des actions très diverses, c'est-à-dire qu'on est présent par exemple sur des expositions, sur des salons pour sensibiliser le grand public. En 2006, on a participé à un double page de Sciences et Vie Junior sur le logiciel libre, qui était très important parce que c'était la première fois qu'un magazine comme ça destiné aux enfants pouvait présenter sur deux pages le logiciel libre. On a beaucoup sensibilisé les députés, on a participé notamment à une audition du rapport parlementaire à armes égales du député Bernard Carayon. On rencontre beaucoup de journalistes, d'entreprises pour les sensibiliser au logiciel libre. Sur la partie défense, candidat.fr, c'est quoi en fait ? C'est la suite de la lutte contre le projet de loi DADVSI. C'est-à-dire que quand la loi est devenue en fait, enfin le projet de loi est devenu une loi en juillet 2006, on est retourné voir un certain nombre, on a réfléchi à la suite et on s'est dit en fait qu'il y a des élections qui allaient arriver, présidentielles et législatives. qu'on avait passé beaucoup de temps durant la loi à essayer de trouver, identifier les députés sensibilisés aux questions des technologies de l'information et du logiciel libre, et que peut-être qu'il faudrait commencer à les sensibiliser dès avant l'élection, c'est-à-dire que dans la phase de candidature. Donc on a lancé l'initiative candidat.fr, donc c'est un site internet et une initiative qui avait en fait pour objectif de sensibiliser les candidats à la présidentielle et aux législatives et d'avoir un certain nombre de réponses sur un certain nombre de questions. Donc sur la partie présidentielle, en fait, on a fait un argumentaire sur tous les sujets qui nous intéressaient, que ce soit le logiciel libre, mais les brevets logiciels, les DRM que j'ai évoqués tout à l'heure, l'enseignement de l'informatique à l'école, est-ce qu'on doit continuer la propagande de Microsoft ou est-ce qu'on doit rééquilibrer en faveur du logiciel libre ? Donc il y avait une dizaine de thèmes comme ça, l'international aussi, parce qu'il y a des traités internationaux qui sont en préparation, qui nous concernent directement. Donc on a rédigé un argumentaire et puis un questionnaire d'une trentaine de questions sur l'ensemble de ces sujets-là, qu'on a transmis aux 12 candidats à la présidentielle. Et sur les 12 candidats, on a reçu 8 réponses, dont les deux finalistes, dont Nicolas Sarkozy, donc le nouveau président, et Ségolène Royal. Et c'est une initiative vraiment unique dans le monde, parce que c'est la première fois que sur l'élection majeure dans un pays, le logiciel libre s'est invité comme thème de la campagne. Donc on a eu, sur la partie présidentielle, un très gros succès. On a renouvelé l'opération sur la partie législative, en la modifiant quand même très légèrement. On a considéré en fait que sur la partie législative, évidemment, les députés n'ont pas forcément le temps de traiter tous les domaines. Par contre, on voulait les sensibiliser aux libertés fondamentales du logiciel libre, et aussi profiter d'un événement qui a eu lieu quelque temps auparavant, c'est la décision de l'Assemblée nationale de migrer les postes de travail des députés vers le logiciel libre. Donc pour nous, et on a participé aux sensibilisations et à la prise de décision de l'Assemblée nationale concernant cette migration, c'est très intéressant parce que ça nous permettait d'aller voir les candidats en leur disant ben voilà, moi je vais vous parler de logiciel libre, et en plus, ça va vous intéresser parce que quand vous allez être élu, ou si vous allez être élu, vous allez utiliser du logiciel libre sur votre poste de travail. Donc on a fait un document très court qui s'appelle le pacte du logiciel libre, qui est un document très simple qui permet en fait de sensibiliser en quelques minutes le député sur les enjeux sociaux et économiques du logiciel libre. Et une fois qu'il est sensibilisé, de lui demander à s'engager simplement à deux choses. Favoriser la diffusion de logiciels libres et son utilisation par les pouvoirs publics, parce qu'on considère qu'à argent public, ça doit être logiciel public, donc logiciel libre. Et deuxième point, à s'opposer à toute loi ou tout règlement qui mettrait en danger les auteurs de logiciels libres. Parce qu'on a vu la loi DADVSI a eu des conséquences et aura des conséquences sur les auteurs de logiciels libres. Et puis on s'est dit que la grande force, en tout cas, quand on va voir des députés, c'est d'aller voir sur le terrain, c'est-à-dire de circonscription, une personne qui est de mon circonscription qui va voir son député. Donc on a mis en place une plateforme collaborative où en fait chacun pouvait s'inscrire, avait accès à la liste de l'ensemble des candidats avec ses coordonnées et dire ben voilà, moi je suis dans telle circonscription, par exemple de Paris ou du Rhône-Alpes, et ben je vais voir mon député et je vais voir avec le pacte. Et l'idée est en fait que le contact se faisait par circonscription et que nous, éventuellement ensuite, dans les futures échéances électorales et dans les futures batailles législatives, on puisse aller voir les députés et leurs assistants en disant, ben voilà, vous avez été contacté par telle personne, vous avez été sensibilisé au logiciel libre, vous avez signé le pacte du logiciel libre, maintenant on a besoin de vous. Alors, de mémoire, parce que là je n'ai pas de connexion, donc je ne peux pas vérifier, mais je crois qu'il y a eu 600 ou 700 candidats au premier tour qui ont signé le pacte, et il doit y avoir 150 ou 200 candidats au second tour qui ont signé le pacte. Donc je n'ai pas regardé en détail les résultats d'hier pour voir combien parmi les élus ont signé le pacte, mais en tout cas on en a sensibilisé beaucoup. Des gens qu'on connaissait puis des gens qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les résultats d'hier, c'est qu'un certain nombre de députés qui ont beaucoup soutenu l'April lors de la loi DADVSI de tous bords, beaucoup ont été réélus. Donc ce qui pour nous est important parce que ça montre qu'on va avoir des soutiens et il faut bien comprendre que lors des débats législatifs, en fait, c'est pas les 577 députés qui discutent de tous les sujets. C'est souvent un ou deux voire trois députés par parti qui discutent du sujet précis qui les intéresse. Donc ça pour nous c'est intéressant. Et puis aussi, il y a eu une bonne nouvelle, c'est la défaite de Renaud de Denieux de Vabre, qui est l'ancien ministre de la Culture, qui est quand même une personne qui a, on peut dire, manipulé beaucoup de gens lors de la loi DADVSI, qui a menti en hémicycle. Et je pense que sa défaite n'est pas forcément non liée à justement ce qui s'est passé sur la loi DADVSI. Donc c'est vrai que on était assez contents de voir cette défaite de cette personne et que finalement, les choses se payent sur le long terme. Donc rassuré de voir qu'un certain nombre de soutiens ont été élus, content de voir qu'un certain nombre de personnes qui n'ont pas eu un comportement correct n'ont pas été élues. Et nous, là, ce qu'on va faire dès l'arrivée des députés à l'Assemblée nationale, ben on va leur écrire, évidemment, pour leur dire, ben voilà, vous avez signé le pacte, ou vous n'avez pas signé le pacte, c'était l'occasion de signer le pacte, et de leur demander rendez-vous pour leur parler de logiciel libre, et d'étudier avec eux, en fait, les modifications législatives qu'on voudrait voir appliquées par rapport au corpus législatif qui existe aujourd'hui. Et ça, en plus, au-delà de l'aspect, je dirais, purement législatif, la mise en place de la plateforme collaborative a montré en fait que beaucoup de gens étaient capables de se mobiliser à partir du moment où on leur mettait en place un outil qui leur permettait en fait de simplifier la prise de contact, c'est-à-dire que eux ils allaient voir sur l'outil, vous voyez, voilà tel candidat, telle coordonnée, ils pouvaient dire je le prends. Et donc ça augmente le réseau, je dirais, de l'association, et c'est important en termes de représentativité, parce que très clairement, quand on va voir des députés, au-delà du fait qu'on leur présente quelque chose qu'ils comprennent, la seconde question qui se pose, c'est qui me parle et combien de divisions vous êtes. Il y a quelques années, l'April, c'était 200 membres. Aujourd'hui, c'est 1500 membres. Demain, j'espère que ça sera 5000 ou 10 000 membres pour avoir encore plus de poids.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui souhaitent se renseigner sur cette initiative ou même aider à y participer, le site web, je le rappelle, c'est candidat.fr, donc candidat au pluriel.
Voilà, candidat au pluriel ou sinon april.org. Les deux sont valables.
D'accord.
Donc, je te remercie de nous avoir présenté l'April et donc justement ses actions dans les faits. Donc, pas seulement... parler, il faut promouvoir le logiciel libre, mais aussi le défendre. Donc c'est vrai qu'en France, on a un contexte politique, on va dire que justement on a un tournant avec la loi DA-DVSI. Donc justement, il faut continuer à suivre cette loi pour se prémunir d'éventuels dérapages contre nos libertés.
Oui, et puis d'autant plus qu'au niveau international, il y a des traités qui sont en préparation qui vont encore plus loin. Que dans le questionnaire candidat.fr sur la partie présidentielle, la réponse la plus négative a été clairement celle de Nicolas Sarkozy, parce que c'est la seule réponse où finalement il n'y avait pas d'engagement à défendre le logiciel libre. Alors, ça veut dire simplement une chose, c'est qu'il ne faut pas les baisser les bras. Au contraire, il faut renforcer nos actions. Nous, on va continuer effectivement à agir et à sensibiliser ces gens-là, parce qu'on pense que le candidat, en tout cas le président de la République, a peut-être été mal conseillé par un certain nombre de ses conseillers, que c'est peut-être quelqu'un qui peut encore changer d'avis, et nous l'espérons et nous le pensons. Et nous pensons fondamentalement une chose, c'est pour ça que nous avons lancé une campagne d'adhésion il y a quelques semaines, c'est plus on sera nombreux et plus on sera sociologiquement et économiquement divers, c'est-à-dire qu'on aura des membres qui ne seront pas simplement des informaticiens, mais également des utilisateurs, on aura des entreprises diverses et variées, plus on sera représentatif et plus on donnera de poids à nos actions. La question récurrente de combien de divisions vous représentez pour un politique, c'est essentiel. Clairement, il y a quelques années, quand on a commencé la bataille contre DADVSI, on était 200 membres, personnes physiques, donc on représentait un certain poids, négligeable pour les politiques. Ils nous ont écoutés parce qu'ils ont compris qu'on leur racontait pas des conneries. Mais là, aujourd'hui, quand on va les voir, quand on leur dit finalement on est 1500 aujourd'hui, on n'a plus le même poids, il suffit de comparer les associations de consommateurs. Il y a plusieurs associations de consommateurs qui existent. Les plus écoutées sont celles qui ont le plus de poids. Donc voilà pourquoi on a aussi besoin du soutien de tout le monde, ce qui n'implique pas forcément une implication dans l'association. Ça implique simplement souvent d'adhérer, de payer sa cotisation et d'être tenu informé. Et puis il y a des gens qui s'impliquent directement dans l'association, mais la plupart des gens ne s'impliquent pas. Par contre, leur soutien est fondamental. Et je le répète, pour nous défendre le logiciel libre à l'ère du numérique, c'est comme défendre la liberté d'expression dans la société qu'on la connaît. Donc je pense que le rôle d'une association comme l'April est équivalente et aussi importante que ce que fait la Ligue, par exemple, des droits de l'homme dans la société traditionnelle. C'est pas que la liberté informatique est plus importante que les autres, mais c'est que comme toutes, aujourd'hui, les activités passent de plus en plus sur l'informatique, défendre la liberté informatique permet de défendre les autres libertés.
Oui, c'est un prérequis nécessaire pour continuer à défendre nos libertés. Et donc justement, tu as parlé qu'il n'y avait pas que des informaticiens, donc c'est un point qui me semble très important de dire aux auditeurs, c'est que on est tous concernés par ce changement du numérique, par ce phénomène.
Tout à fait, on est tous concernés. Là, je regardais les adhésions qui arrivent depuis qu'on a lancé la campagne d'adhésion. Dans les profils, il y a très peu d'informaticiens. 9 nouveaux adhérents sur 10 de l'association ne sont pas du tout informaticiens. Alors, c'est intéressant parce que ça donne encore plus de poids à l'association, mais ça montre aussi qu'effectivement, comme je dis, sociologiquement, le logiciel libre touche de plus en plus de couches de la population. On l'avait déjà vu sur DADVSI quand on avait lancé la pétition en ligne qui avait atteint 175 000 signataires individuels et 1000 organisations. On avait vu notamment sur les organisations, en fait, c'était très divers. C'était pas que des sociétés informatiques. On avait des artistes, par exemple, qui utilisent du logiciel libre pour gérer leur quotidien. On a des associations, on a des petites entreprises. Ou si je reprends l'exemple de l'April, aujourd'hui, il y a peut-être... Oui, je crois qu'il y a un mois, nous avons eu la première entreprise utilisatrice de logiciels libres qui adhérait à l'association. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, au niveau entreprise, les membres entreprises de l'association étaient principalement des professionnels du secteur. Là, on a une société dont le métier, c'est de faire des motoculteurs et qui, pour leur système d'information en interne, utilisent du logiciel libre et qu'ils pensent qu'il est fondamental d'en faire la promotion et surtout de le défendre. Donc cette société utilisatrice, qui s'appelle EMJ, qui fait donc des motoculteurs, c'est une PME, a adhéré à l'association et rejoint des organisations comme Thales, Sun ou des sociétés de services en logiciel libre pour défendre le logiciel libre. Donc ça, c'est important aussi justement pour nos actions, parce que ça montre... Il est très difficile de savoir qui utilise finalement du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire, parce qu'il n'y a pas de notion de licence. On peut acheter un CD et installer 1000 postes. Donc c'est difficile à savoir quelle est la réelle utilisation du logiciel libre. Ben, quand on regarde l'association April, on a déjà une idée de la sociologie de ce monde-là, de sa diversité.
D'accord, donc je te remercie de nous avoir parlé de ça. Donc on va faire une petite pause musicale.
Oui, absolument, on va s'écouter That's Life de Classic Tragic Hero, d'un album qui s'appelle That's Life.
Voilà, donc sur Graphite 94.9 et sur internet ghstreaming.etc.fr. Tout de suite, That's Life sur Graphite, donc un titre sous Creative Commons que vous pouvez trouver sur jamendo.com en accès libre. Voilà. So I'm a retro jerk, saves you from doing any work to shoulder. Label me insensitive goof, because I thought I'd let you loose. After we stumbled, before we crumbled. Hold on to your hate, though it keep you sedate. I loved you, but you'll never be my wife. Let it go when you are soothed, when you have some.
You got a hole in your heart. Makes it easier to wear around your neck. And when you sway, it swings between what you lost before and haven't quite found yet. Heart on a string and love on the line. You had a lot of takers. Don't you want someone who will give this time? You believe that love is just around the corner, and you believe in waiting until your dream come true, but you need to know that there is nothing love can do until you believe in you. You got a smile for every face. For everyone you meet, well, it cheers up my day, but I got to wonder, when was the last time you smiled yourself to sleep? Heart on a string and love on the line. Had a lot of takers. Hope you find someone who won't give this time. You believe that love is just around the corner, and you believe in waiting until your dreams come true, but you need to know nothing love can do until you believe, and you believe that love is just around the corner. You believe in waiting until your dreams come true, but
Monde Libre dans Graphite. Donc on vient de s'écouter You Believe, donc de l'artiste Steven Dustin et de l'album Hymns About Her. Voilà, donc c'était un titre toujours sous licence Creative Commons qu'on a trouvé sur jamendo.com. Donc on est toujours en compagnie de Frédéric Couchet et Rémi Palancher comme invités dans notre émission Monde Libre. Donc, désolé pour ce coup, Maxime, un petit problème de micro. Et donc voilà, donc on va parler peut-être un point économique. Donc Rémi, tu avais une question à poser à Frédéric dans le cadre de notre émission.
Oui, voilà. En fait, donc moi je constate ici à l'UTC que les étudiants, notamment en génie informatique, pensent, enfin pour une partie d'entre eux, pensent que les logiciels libres peuvent être source de chômage du fait que généralement les frais de licence sont annulés. Alors, paradoxalement, on constate qu'il y a des grosses entreprises qui sont membres de l'April, notamment Sun Microsystems, qui représentent beaucoup d'emplois en France et puis même dans le monde. Donc j'aurais aimé savoir, enfin connaître ton avis sur les aspects économiques du logiciel libre et que tu nous expliques comment on peut faire de l'argent avec des logiciels libres.
il faut bien comprendre d'abord que le modèle économique du logiciel libre... Alors, il y a plusieurs modèles économiques dans le logiciel libre. Là, les membres entreprises de l'association, d'ailleurs, sont en train de travailler sur un livre blanc qui devrait être disponible dans quelques semaines, qui présente les différents modèles. Mais l'un des modèles économiques, évidemment, par excellence, c'est celui du service, c'est-à-dire l'adaptation, la maintenance, la formation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le logiciel libre permet en fait le développement d'une économie locale, basé sur des compétences locales, là où finalement le logiciel propriétaire organise plutôt de l'évasion fiscale. Il faut bien comprendre que le logiciel propriétaire permet notamment de l'évasion fiscale, car la plupart des éditeurs de logiciels propriétaires en fait passent notamment par l'Irlande pour en fait renvoyer l'argent qu'ils récupèrent dans les pays d'origine, notamment nord-américains. Et donc finalement, économiquement, en fait, ces gens-là n'ont pas forcément une implication économique très importante en local. Dans les pays, par exemple, en voie de développement, beaucoup font le choix du logiciel libre ou essayent de faire le choix du logiciel libre pour deux raisons principales. La première, c'est pour l'indépendance et la maîtrise de leur système d'information. Du fait que ce soit du logiciel libre, ils ont accès au code source qui leur permet d'être indépendants et de faire évoluer leur système indépendamment, évidemment, d'un éditeur de logiciel propriétaire. Et en plus, ça leur permet de développer une économie locale, donc basée sur du service, formation, maintenance, installation, mise à jour, etc. Donc économiquement, il y a plein de gens qui vivent de logiciels libres. Et de plus en plus, il y en aura pour une raison très simple, c'est qu'il va y avoir aussi une troisième catégorie, à mon sens, de logiciels qui va se libérer. C'est ce qu'on appelle le logiciel qui est privé, qui est développé en interne par des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent du logiciel pour leurs besoins internes, par exemple pour gérer leur système d'information ou tel autre outil. Et ce logiciel n'est pas propriétaire dans le sens il n'est pas vendu sous forme de licence à l'extérieur, parce que le modèle économique de l'entreprise elle est ailleurs. C'est par exemple quelqu'un qui fait de l'assurance ou quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Ce logiciel il n'est pas diffusé à l'extérieur parce que les gens n'y ont pas pensé. Et de plus en plus de personnes, de structures vont commencer à diffuser ce code à l'extérieur et sous forme de code logiciel libre pour tenter de profiter de la dynamique du libre en se disant... principalement, essentiellement, en se disant que le code, comme il va être publié à l'extérieur, les développeurs vont faire un effort supplémentaire d'écrire leur code de façon plus propre, de le documenter. Tout simplement parce que le fait que le code va être lu par d'autres personnes implique que le développeur original doit faire un effort pour que cette personne puisse lire correctement ce code-là. Et en même temps, se dire simplement que telle entreprise a tel besoin, peut-être que tel autre qui est à côté, à 100 km ou 500 km, peut avoir éventuellement le même besoin, va se dire « je vais récupérer ce code-là, je vais l'utiliser, je vais éventuellement rajouter une fonctionnalité que la première entreprise n'avait pas pensé, et je vais pareil remettre dans le pot commun ». Et ces informaticiens donc qui sont en interne, qui développent aujourd'hui du logiciel privé, demain vont développer du logiciel libre. Un dernier exemple là-dessus, qui est un peu lié, c'est les logiciels métiers. Historiquement, les logiciels libres se sont développés sur les couches basses, ce qu'on appelle plutôt le système d'exploitation et le réseau. Ensuite, on a eu les applications clients, navigateurs Internet, traitement de texte, etc. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de logiciels métiers, parce que de plus en plus de structures se rendent compte, en fait, que plutôt que d'acheter eux-mêmes un logiciel propriétaire chacun dans leur coin, et donc d'être finalement prisonnier de cet éditeur de logiciel propriétaire, il est peut-être plus intéressant de se mettre ensemble, de mutualiser les moyens financiers pour développer des outils logiciels libres, et notamment de plus en plus de collectivités qui font ça, qui développent des outils dont ils ont besoin, des outils métiers. Ils mettent ensemble l'argent qu'ils ont, ils mutualisent les moyens, et ils font ça en logiciel libre. Donc très clairement, économiquement, on peut gagner de l'argent avec du logiciel libre, il y a beaucoup de moyens de le faire. Le logiciel libre n'est absolument pas créateur de chômage, au contraire, il est créateur de richesses et d'emplois. Et surtout, ce sont des emplois qui sont basés vraiment sur une vraie concurrence, où finalement, ce qui va faire la différence, c'est l'expertise de chacun. C'est pas du tout le fait d'avoir une position dominante sur un marché. Non, c'est réellement l'expertise de chacun. Et en informatique, c'est souvent ça qui prime, c'est le fait d'avoir les quelques mois d'avance sur la concurrence. Et c'est ce que permet le logiciel libre. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans l'April, on a des membres entreprises qui sont diverses et variées, qui ont des modèles économiques très différents. Pour le détail, je vous invite à regarder sur le site dans quelques semaines, sur le site april.org. Il y aura un livre blanc sur les modèles économiques, avec les chiffres à l'appui, qui montrera ces entreprises-là, combien elles ont d'emplois, combien elles génèrent de bénéfices.
D'accord, donc je te remercie. Donc ça répond à ta question, Rémi.
Oui, parfaitement. Mais j'aimerais citer sur un aspect. Donc l'aspect, on va dire, mutualisation du développement dont tu parlais. Pour prendre un exemple, logiciel Linux, qui est en fait un simple logiciel, c'est environ 3000 développeurs qui travaillent dessus, peut-être même plus, de environ 60 à 70 entreprises qui payent ces développeurs. Enfin, une partie de ces 3000 développeurs chacune. Donc en fait, elles arrivent en fournissant entre 5 et 10 développeurs chacune à développer un logiciel qui est très puissant à l'heure actuelle, qui est certainement le noyau de système d'exploitation le plus puissant qui est sur le marché informatique. Et donc, en fait, aucune de ces entreprises, de ces 70 entreprises, n'aurait pu développer à elle seule un noyau de système d'exploitation aussi puissant. Donc c'est là que le logiciel libre peut être déterminant dans les choix stratégiques d'une entreprise pour cet aspect justement d'utilisation du travail.
Oui, d'autant plus que aujourd'hui, c'est vrai, de plus en plus vrai, les systèmes informatiques deviennent de plus en plus complexes. Et effectivement, aucune entreprise aujourd'hui peut toute seule développer entièrement un environnement complet. C'est de plus en plus compliqué, ça deviendra de plus en plus compliqué. Les seuls qui essayent de le faire, on voit bien qu'elles produisent des outils qui sont pas utilisables, qui sont buggés, etc. Finalement, dans le logiciel libre, en fait, ce qu'on paye, c'est la valeur ajoutée qu'on rajoute dans le pot commun, en fait. Il y a des briques libres, et finalement, les gens prennent ces briques libres, prennent ces composants, les assemblent pour avoir finalement le logiciel dont ils ont besoin. Et s'il y a un manque quelque part, ils vont financer ce manque-là. Et finalement, la seule chose qu'ils vont financer, c'est cette fameuse valeur ajoutée. Donc économiquement, c'est très intéressant, effectivement, de fonctionner comme ça. Et finalement, pour les entreprises, faire du logiciel libre, c'est pas de l'altruisme, c'est une forme d'égoïsme. En tout cas, c'est un altruisme bien calculé. C'est ce fait de se dire, c'est moi, je mets dans le pot commun quelques milliers, voire quelques millions de lignes de code, mais en échange, je récupère les autres millions de lignes de code que tous les autres ont produits. Donc finalement, c'est un calcul tout à fait efficace. Et à côté de ça, vous avez des développeurs de logiciels libres qui développent du logiciel libre simplement pour leur plaisir, pour leur passion. Un petit peu de la même façon que vous avez des artistes qui font de l'art pour leur passion, comme ça, sans chercher forcément à être rémunérés, et puis qui, à côté, font de l'art rémunéré quand ils en ont besoin. Donc il ne faut pas oublier que dans le monde du logiciel libre, il y a ces deux aspects-là. Il y a des gens, des développeurs indépendants qui produisent du logiciel libre simplement parce qu'ils en ont envie ou simplement parce qu'ils considèrent que c'est important et qu'on n'attend pas forcément une rémunération directe. Puis à côté de ça, vous avez des industriels, effectivement, qui économiquement font le choix du logiciel libre, même si ce n'est pas un choix éthique. Et c'est pour ça qu'au niveau d'ailleurs politique, tous les partis, quelque part, soutiennent, entre guillemets, en tout cas, ont tout intérêt à soutenir le logiciel libre, parce qu'ils y trouvent chacun des raisons de le soutenir, que ce soit éthique, économique, sociale, vie privée, etc., etc.
Très bien. On vous remercie d'avoir répondu à cette question. Ah, mon micro refonctionne. C'est fabuleux. Donc, je pense qu'on va maintenant faire une petite pause musicale en écoutant une piste que nous avons déjà écoutée dans une émission précédente, mais comme on l'aimait bien, on la repasse. Ça s'appelle « C'est l'anarchie » de Samy, d'un album qui s'appelle « Drapeau noir ».
Voilà, donc vous êtes toujours sur Monde Libre 94.9 Graphite. Donc vous pouvez toujours nous écouter sur internet ghstreaming.etc.fr, ghstreaming.etc.fr. Tout de suite, c'est l'anarchie dans Monde Libre avec Samy.
Il me semble qu'il y a comme une erreur.
Pardon ?
J'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements.
De mes placements ?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5% ?
C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
C'est les néons phosphorescents, les marques, les logos, les tiroirs caisses et les vigiles vigilants.
Retirez les enfants des écoles, qui quand le maître parle rigole, qui se foutent de l'autorité, être sa façon d'éduquer, c'est l'anarchie.
Nous remercions tous les enfants d'essayer d'avoir la meilleure note, d'être déférents envers les grands, d'être sages, obéissants, bâtons de charotte. Qui touche une retraite de pacotille, qu'on a relégué dans les dortoirs, quand ça bosse plus, c'est plus utile.
Tiens, voyez ça, tous ces chômeurs qui ne recherchent même pas de boulot, ils pourraient au moins y mettre du leur, de l'extérieur ça aurait l'air plus beau, c'est la
même. Remercions tous les travailleurs, travailleuses à donner 80% de ce qu'ils produisent à leur entreprise, à leur patron. Nous remercions l'esclavage, le servage et le salariat qui perpétuent l'exploitation, le capital et ses actions.
Ces pays qui se retrouvent en guerre contre la pensée.
c'est du mal pour tous les scouts télévisés. Nous remercions tous les États sans qui rien ne serait arrivé, ainsi que les multinationales pour le pétrole à bon marché.
Au ciel, c'est un tag sur ce mur, c'est une offense à la nature. En plus, ça apporte un message. À ce point-là, c'est un outrage.
C'est l'anarchie. Nous vous remercions aujourd'hui encore d'avoir bien observé les 2500 publicités quotidiennes que vous ingérez. Vous pouvez toujours dire que vous vous en foutez. Qui ont payé les transports par leurs impôts et qui les repayent à nouveau. Compostage, vérification, vidéo observée, il faut bien rembourser les moyens de vous contrôler.
Libre circulation, vous disiez, ces gens qui ont quitté leur pays pour de nos richesses profiter. Ils avaient qu'à être nés ici, c'est la magie.
Remercions tous les sans-papiers qui ont aimablement regagné leur pays d'origine pour s'y faire enfermer ou fusiller. Ici, les riches seuls sont admis. La fidélité, le pouvoir du père sur la mère, la charité, le HIV, le patriarcat bien agencé. Admettre la pensée uniforme, ça justifie les policiers, les prisons et les juges de forme. Vous serez toujours le déviant de quelqu'un, ainsi sont incarnés les chiens.
Bien, vous êtes toujours dans Monde Libre sur Graphite 94.9 FM. Frédéric Couchet, pour terminer l'émission, il y a un sujet dont tu voulais nous parler.
Ah oui. Non, en fait, ce que je simplement, je voulais revenir sur le fait qu'aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que de plus en plus d'activités de la vie quotidienne passaient sur l'informatique, le rôle d'informaticien comme nous, parce que moi je suis à la base informaticien, est fondamental, c'est d'expliquer effectivement que la technique permet soit de reprendre le contrôle en fait sur les outils qu'on utilise, si on fait le choix par exemple de logiciels libres, mais la technique permet aussi à d'autres personnes de prendre le contrôle de vos usages. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les DRM. La technique des DRM permet en fait au major de l'édition de contrôler en fait l'usage que vous faites de votre ordinateur, qui n'est de facto plus un ordinateur, parce que finalement vous n'en faites plus ce que vous voulez, vous ne pouvez plus contrôler ce que vous voulez. Il y a d'autres points négatifs, comme par exemple ce qu'on appelle les BIOS tatoués. Les BIOS, c'est le petit logiciel qui permet de démarrer une machine. Ben, vous avez aujourd'hui certains magasins qui vendent des BIOS qui ne sont configurés que pour faire démarrer des systèmes d'exploitation propriétaires, qui interdisent à des logiciels libres de démarrer. Donc de facto, vous n'avez plus un ordinateur. Vous achetez un ordinateur équipé de Windows par défaut. Vous avez aussi le problème de la vente liée. Donc aujourd'hui, simplement, il y a de plus en plus d'informatique dans la société en général. Donc il est important que les informaticiens, qui savent comment ces machines fonctionnent, qui savent comment la technologie fonctionne, informent le citoyen. Et il y a un exemple qui est relativement récent, qui n'est pas lié au logiciel libre, mais dont je voulais juste rapidement parler, c'est le vote électronique, et notamment par ordinateur. Il y a beaucoup de citoyens qui ont voté via ordinateur lors des dernières élections, présidentielles et législatives, avec comme principal argument avancé, c'est que ça coûte moins cher, que ça va plus vite à dépouiller, etc. Sauf que le problème, c'est qu'on vient de transformer un élément essentiel de la démocratie, qui est le dépouillement via une urne transparente, donc permettant à n'importe qui est citoyen de pouvoir venir voir comment se passe le dépouillement et vérifier de lui-même que le dépouillement est correct. On transfère ça à un ordinateur qui n'est accessible que par des informaticiens, qui à la fin donne un résultat qui est totalement invérifiable, totalement opaque. Et tout ça pour gagner peut-être une heure de dépouillement ou deux heures de dépouillement. Et c'est mis en avant par des gens, notamment André Santini, qui est maire d'ici de Moulineaux et qui est annoncé comme étant peut-être secrétaire d'État aux technologies de l'information. Et je trouve très grave que des gens qui prétendent connaître la technologie, prétendent connaître les effets de la technologie, utilisent des techniques en fait pour finalement capturer l'essence même de la démocratie qui est dans une élection électorale. Le dépouillement. Et donc c'est pour ça que des gens comme nous, mais d'autres, se battent contre le vote électronique, en tout cas le vote par ordinateur pour les élections institutionnelles, parce qu'on considère en fait que c'est retirer aux citoyens son contrôle de pouvoir sur ce qui est l'élément fondamental de la société, qui est l'élection de ses représentants. Donc, je dis ça simplement pour rappeler que la technologie, quand elle est utilisée correctement, elle peut avoir des effets positifs. Quand elle est utilisée non correctement, elle peut être très dangereuse. Et c'est pour ça que faire le choix du logiciel libre autant que possible, c'est-à-dire un logiciel qui respecte votre liberté, dont vous pouvez, si vous avez envie ou si vous avez les compétences, vérifier ce qu'il fait réellement, est un choix véritablement de société sur lequel il faut s'engager et qu'il faut défendre profondément.
Très bien, eh ben, merci beaucoup, je pense que ce sera le mot de la fin. L'émission s'arrête ici, on vous remercie Frédéric Couchet d'avoir accepté notre invitation et d'être venu.
Ben, merci de votre invitation.
On remercie également Rémi qui était là et qui a participé, qui a posé quelques questions.
Non, ben, merci, c'est très agréable.
On va se quitter sur un titre qui s'appelle la boîte dans le grenier d'un artiste qui s'appelle La Petite Mort. On se retrouve la semaine prochaine de 13h à 14h comme d'habitude sur Graphite 94.9 et sur ghstreaming.utc.fr.
Voilà, donc je te remercie de nous avoir sensibilisés à cette question et donc on se quitte ici. Tout de suite, La Boîte dans le Grenier.
Mes souvenirs de choses que je veux oublier, de vérités que j'ai dû fuir. Il y a une boîte dans mon grenier. J'y ai dissimulé, je pense, toutes mes faiblesses inavouées, les frustrations de mon enfance, mes craintes, mes peines et toutes mes désillusions d'adolescence et des adieux mal consumés, tous ces cris qui deviennent silence. Il y a une boîte dans mon grenier. Par nécessité, le temps que je trouve le courage d'ouvrir la boîte.